Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Saint-Esprit.
Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et embrasez-les du feu de votre amour. Mes très chers frères, si notre Seigneur Jésus-Christ est la réalisation de la promesse que Dieu le Père a faite à Abraham et à ses descendants, le Saint-Esprit réalise la promesse faite par le Christ ressuscité à son Église. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, je vous enverrai un autre consolateur, un autre paraclet, l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit est donc envoyé il procède du Père et du Fils, et il est envoyé par le Fils, comme le Fils a été envoyé par le Père, même si le Saint-Esprit procède, comme je viens de le dire, du Père et du Fils. Ce jour, mes très chers frères, ce jour de la fête de la Pentecôte, ce saint jour, est la clé de voûte de tout l'édifice de la rédemption. Notre cœur déborde de joie à l'évocation du miracle stupéfiant par lequel l'Église a été révélée au monde lorsque le bruit d'un vent violent et que les langues de feu sont apparues dans le cénacle. Le bruit de ce vent violent retentit dans tout Jérusalem, de telle sorte que tous les Juifs dévots qui étaient là pour la fête de la Pentecôte, qui était une fête de l'Ancien Testament aussi, sont arrivés pour voir ce qui se passait, et ils ont vu et entendu les apôtres au Cénacle, désormais non plus craintifs, mais rayonnant du Saint-Esprit, parlant en toutes sortes de langues. La malédiction de Babel était révoquée en quelque sorte, le Saint-Esprit unifiait à nouveau toute l'humanité dans le Christ, dans la mesure où, bien sûr, le Christ régnait sur ceux qu'il avait rachetés. Nous avons plusieurs choses à voir, mes très chers frères, en cette belle fête de la Pentecôte. Premièrement, dans notre premier point, nous verrons très rapidement les raisons d'être théologiques de la Pentecôte. Nous verrons aussi, comme nous en avons déjà donné un mot, son rapport nécessaire à l'œuvre du Christ. Nous parlerons des dons du Saint-Esprit, et nous verrons aussi ce qu'ils ne sont pas, ces dons. Et puis nous verrons leur finalité. Tout ça dans le premier point. Dans le deuxième point, nous verrons comment se réalise notre sanctification, car la sanctification est l'œuvre spéciale et particulière du Saint-Esprit. Donc nous verrons, avec l'aide du Saint-Esprit, comment se réalise notre sanctification. Nous verrons aussi, nous donnerons un exemple, et nous verrons le Saint-Esprit comme feu de l'Holocauste. Et enfin, en troisième point, nous verrons ce que l'Église nous fait demander en ce jour dans l'oraison qui est l'oraison collecte, qui est en même temps l'oraison que nous disons en général pour demander la lumière du Saint-Esprit. Donc nous verrons comment se réalise, nous verrons comment ce que l'Église nous fait demander en ce jour, nous verrons pourquoi il est impossible d'éprouver le découragement dans les efforts que nous avons à faire, parce que justement, eh bien, le Saint-Esprit nous a été donné, et ce sera par cela que nous terminons. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Écoutez ce que dit, mes très chers frères, le Sauveur dans l'Évangile. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La Pentecôte, nous disent les théologiens, la Pentecôte est l'accomplissement de tout ce qu'a fait le Fils de Dieu sur la terre, la fin, la finalité de la résurrection et de l'incarnation, sans laquelle elles auraient été inutiles. Notre Seigneur, qu'a-t-il fait? Notre Seigneur a tout fait de telle sorte que nous existions. Autrefois, nous n'existions pas. Nous n'étions que des enfants déchus d'Adam, nous étions les esclaves du diable, nous étions dans une condition naturellement monstrueuse et spirituellement de mort absolue. Nous n'existions pas, certes nous existions sous un certain rapport, mais nous n'existions pas à Dieu. Le Christ, le Fils éternel de Dieu, en s'incarnant, en réalisant la promesse faite par Dieu à nos pères, en étant le Messie envoyé par Dieu, a pris sur lui nos péchés, il nous a réconciliés avec notre Père Céleste, avec celui qui est notre Dieu et qui est désormais notre Père Céleste, il nous a réconciliés, dis-je, avec lui, il a détruit le mur d'inimitié qui nous opposait nous les païens, au peuple de l'Alliance, et il a convaincu le monde de péché afin de racheter tous ceux qui devaient être rachetés, dit saint Paul. Il se trouve que si notre Seigneur n'était pas ressuscité, s'il était mort, il était monté au ciel, nous serions dans une grande détresse. S'il était ressuscité et qu'il était monté directement au ciel, nous serions dans une grande détresse parce qu'il ne nous aurait pas, en quelque, il nous aurait laissé à nous-mêmes, c'est-à-dire à notre lâcheté. Je vous rappelle ce que les apôtres ont pu faire, privés qu'ils étaient encore du Saint-Esprit, lors de Gethsémani, etc. Si notre Seigneur, dis-je, était resté avec nous, était ressuscité, resté avec nous, il nous avait enseigné, et qu'il était monté au ciel, ce qui s'est passé effectivement, et qu'il n'avait pas envoyé le Saint-Esprit, très, très rapidement, les disciples seraient retombés dans ce qu'ils étaient, c'est-à-dire qu'ils seraient tombés même dans un état pire, c'est-à-dire qu'ils auraient été profondément découragés de voir tout ce que le Seigneur a fait pour eux, et de constater à quel point leur faiblesse, leur incrédulité, la dureté de leur cœur était en train de reprendre le dessus. Ils auraient eu pendant 40 jours les enseignements du Christ ressuscité, qui sont le fond même de la doctrine, de la tradition orale, telle que l'Église la conserve et nous l'enseigne. Ils auraient eu tout ceci, mais tout ceci, ils l'auraient progressivement oublié. Certains d'entre eux l'auraient mis par écrit, mais sans aucune garantie d'avoir une bonne mémoire. D'autres auraient contesté ce que les uns auraient écrit, donc ces écrits auraient été réduits à néant. Nous serions les plus malheureux des hommes, alors même que le Christ aurait accompli notre rédemption. Il fallait, mes très chers frères, qu'après la Passion, après la résurrection, après l'ascension, vint encore la Pentecôte, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit. Notre Seigneur nous aurait laissé à nous-mêmes, quoique muni de tout ce qu'il avait fait pour nous, mais il nous aurait laissé à nous-mêmes s'il ne nous avait pas donné le Saint-Esprit. Alors vous direz, peut-être s'il était resté avec nous, peut-être que nous n'aurions pas eu besoin d'avoir le Saint-Esprit. Mais notre Seigneur nous a prévenu déjà depuis longtemps, depuis plusieurs semaines, qu'il est utile qu'il s'en aille. Car s'il ne s'en allait pas, le Saint-Esprit ne pourrait pas être donné, n'aurait pas pu être donné. Alors, ne perdons pas notre temps à nous dire qu'est-ce qui se serait passé si les choses ne s'étaient pas passées comme elles se sont passées. Tout ceci, c'est de la curiosité, c'est inutile. Le Saint-Esprit nous a été donné, et liturgiquement parlant, la fête de la Pentecôte marque la fin du temps pascal, c'est-à-dire du temps où nous célébrons les mystères de notre rédemption. Nous sommes encore dans le temps pascal jusqu'à none de samedi qui vient, samedi prochain, mais il se trouve que ce sera l'octave de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, 10 jours après l'Ascension, scelle et vivifie l'œuvre de notre Seigneur. Il ne faut pas s'imaginer que c'est en quelque sorte minimiser l'œuvre de notre Seigneur que de dire que sans le don du Saint-Esprit, sans l'effusion du Saint-Esprit sur le corps mystique du Christ, l'œuvre de notre Seigneur serait restée stérile. Nul ne peut remplacer l'œuvre du semeur. Il sème, il jette sa semence en terre et il a fait ce qu'il devait faire. Mais si la pluie ne vient pas, les grains qui sont de bons grains dans une bonne terre ne pourront jamais germer. Le semeur n'est donc pas en quelque sorte frustré de la gloire qui lui revient lorsqu'on dit qu'il faut encore qu'il pleuve. Le semeur sème et le divin semeur nous envoie la pluie de telle sorte que cette pluie vienne féconder la terre qui recèle le bon grain et que le bon grain puisse germer et porter du fruit à la gloire de Dieu. Le Christ a formé le corps de l'Église. Si notre Seigneur Jésus-Christ, si le Fils éternel de Dieu ne s'était pas incarné, comment l'Église aurait-elle pu exister? Elle est le corps mystique du Christ. Elle est le vrai corps du Christ. Le corps mystique du Christ signifie que c'est le corps du Christ sous une certaine forme. Mais ce n'est pas un corps idéal, un corps putatif, un corps imaginaire. C'est le vrai corps. L'Église est le corps du Christ. Il ne peut pas y avoir une Église hérétique. Il ne peut pas y avoir une Église corrompue dans son essence même. Elle peut être corrompue dans quelques-uns de ses membres, ici-bas, dans son aspect militant, dans son aspect temporel. Mais l'Église est l'épouse immaculée de notre Seigneur Jésus-Christ. la Sainte Vierge est l'image parfaite de ce qu'est l'Église. Donc l'Église, qui est le corps mystique du Christ, le Christ l'a formée en prenant son corps de la Très Sainte Vierge Marie. Elle est née lorsque Saint Longin a percé le côté de notre Seigneur, de sa lance, et que le sang et l'eau sont sortis, ces deux substances mystérieuses qui ont donné lieu à l'Église. L'Église a été tirée du côté du nouvel Adam, comme la femme a été tirée de la côte du premier Adam. Le Christ, donc, a formé le corps mystique de l'Église. Le Saint-Esprit, mes très chers frères, est l'âme divine de ce corps. C'est l'enseignement constant du magistère. Le Saint-Esprit est l'âme de l'Église. Non pas que le Saint-Esprit soit l'âme du corps, soit l'âme du Christ, à strictement parler. Mais nous regardons l'Église comme distincte, sinon dissociée, du Christ. Ce corps mystique, eh bien, son âme, c'est le Saint-Esprit. Ce corps aurait été un corps vivant, mais comme celui que Ézéchiel a vu, comme ceux qu'Ézéchiel a vu dans la vallée des ossements, c'était des ossements qui étaient autrefois desséchés, dont toutes les jointures ont été reconstituées, qui ont reçu la chair, les nerfs, sur les os, qui se sont dressés sur leurs pieds, mais ils n'étaient pas encore vivants. C'est lorsque Ézéchiel eut appelé le Saint-Esprit, selon l'ordre de Dieu, que ces corps sont devenus des corps vivants. Eh bien, notre Seigneur a mis au monde cette Église, et l'Église, au moment de ne devait naître, un peu comme les petits bébés qui commencent à respirer lorsqu'ils naissent, eh bien, l'Église ne devait être ce qu'elle est et ce que nous la connaissons pour telle, que lorsque le souffle divin se fut abattu sur elle. Et ce fut au jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est donc l'âme divine de l'Église, qui est cette entité divine qui n'est autre que le corps mystique du Christ, qui est le Fils éternel de Dieu, vrai Dieu. Tant que le Messie était ici-bas, identifiable, nous disent les théologiens, identifiable par un corps qui ressemblait à celui du péché, c'est-à-dire au corps qui est le nôtre, notre Seigneur ressuscité, bien sûr, pouvait traverser les murs, pouvait manger ou ne pas manger à sa guise, mais il était identifiable avec le corps qu'il avait eu de la Très Sainte Vierge Marie, et ce corps était un corps qui était proportionné au fait de porter les péchés, d'assumer la condition de pécheur. Le Christ est sans péché, mais il a assumé notre condition de pécheur, de telle sorte que tant que le Christ était ici-bas, sensiblement identifiable, grâce au corps qui ressemble à celui du corps du péché que nous avons, eh bien, sa présence, mes très chers frères, n'était pas d'une très grande utilité à l'Église. Elle rassurait les apôtres, elle les confortait, elle les confirmait, elle les encourageait, elle les enseignait, mais il y a une distinction au sein de la Très Sainte Trinité entre le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Père est Dieu, un seul Dieu. Mais on ne peut pas confondre les personnes. Autre est la personne du Fils, autre est la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Christ, est celui qui nous a créés, qui nous a recréés, qui nous a créés. Le Saint-Esprit est, comme son nom l'indique dans la liturgie, est le vivificateur. Il est celui qui vivifie ce que le Christ a créé en lui-même. Par l'ascension et la Pentecôte, toutes ces paroles sont devenues, les paroles du Christ sont devenues vivifiantes. Le rôle du Saint-Esprit, mes très chers frères, est de nous unir au Christ. Le Christ nous a rachetés. Le Saint-Esprit nous donne de pouvoir vivre comme des rachetés. Le Christ nous a recréés, je pense bien sûr pas au baptême, le Christ nous a recréés membres de son corps mystique. Le Saint-Esprit nous rend capables de perdurer en tant que membres du corps mystique. Il y a quelque chose de statique avec le Christ, il y a quelque chose de dynamique, si vous me permettez d'être légèrement pédant, avec le Saint-Esprit. Non pas dynamique au sens moderne, non pas statique au sens péjoratif. Le Christ est à l'origine du fait que nous sommes, le Saint-Esprit est à l'origine du fait que nous existons à Dieu. Il révèle notre union. Le Saint-Esprit révèle notre union. Le Saint-Esprit n'est pas le Créateur qui fait de nous des chrétiens, à strictement parler. Il fait de nous des chrétiens parce que nous sommes incorporés au Christ par le sacrement du baptême. Donc, nous sommes véritablement membres du Christ, et le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, un aspect de l'œuvre du Saint-Esprit, est de révéler notre union, notre identité même, comme disent certains théologiens, avec le Christ. Lorsque nous sommes baptisés, Eh bien, nous sommes faits membres du corps mystique du Christ. Et lorsque nous sommes confirmés, c'est le sacrement qui nous donne d'une façon particulière, très précise, le Saint-Esprit, même si nous recevons aussi le Saint-Esprit d'une façon générale par le baptême, mais nous le recevons d'une façon plus particulière lors de la confirmation. Lorsque nous sommes baptisés, nous sommes faits membres du corps mystique du Christ. Lorsque nous sommes confirmés, eh bien, nous devenons un membre affermi du corps mystique du Christ. Nous avons été baptisés enfants, nous avons été baptisés au terme adulte, au terme d'un cheminement spirituel, qui fait que, d'une manière ou d'une autre, que ce soit métaphorique ou que ce soit d'une façon du point de vue de l'âge, nous étions des tout petits enfants lorsque nous avons été baptisés. Le converti, le nouveau converti, qui après même avoir cheminé pendant plusieurs années, le jour où il est baptisé, est un tout petit enfant, un tout petit bébé. Tout commence. Le baptême n'est pas l'aboutissement d'une quête, enfin sous un certain rapport, oui, mais c'est surtout le commencement d'une vie. Il vient de sortir des fonts baptismaux, c'est un tout petit enfant. Encore faut-il que le Saint-Esprit le vivifie, le fortifie, lui fasse atteindre l'âge et la taille d'adulte dans le Christ. Donc le rôle du Saint-Esprit est de révéler à nous-mêmes notre identité. Et quelle est notre identité? Eh bien, notre identité, ce n'est pas ce qui est écrit sur la carte d'identité, ça correspond au vieil Adam, c'est le Christ même. Le Saint-Esprit, et c'est un des aspects les plus méconnus et les plus fondamentaux, si l'on peut dire à la fois méconnus et fondamentaux de son œuvre, c'est qu'il dissipe l'illusion qui est la nôtre, et qui consiste à nous croire distincts, voire opposés au Fils éternel de Dieu. Dans la mesure où nous sommes baptisés, nous sommes lui. Alors, pas au premier degré, dans le sens où nous ne devenons pas notre Seigneur, chacun, ce qui sera absurde, vous comprenez. Mais nous sommes véritablement, lorsqu'on demande à un baptisé « Qui êtes-vous ?», le baptisé est dans un état, finalement, pris en flagrant délit de mensonge, lorsqu'il dit, eh bien, il sort sa carte d'identité, il dit « Ben voilà, regardez, c'est écrit là-dessus. » Non, j'étais cet enfant d'Adam, sous un certain rapport, je continue à l'être, parce qu'il n'y a pas eu changement d'individualité, mais changement d'identité. Le Saint-Esprit réalise ce changement d'identité. Nous étions autrefois fils d'Adam, et simplement cela, nous sommes aujourd'hui fils de Dieu, dans le Fils de Dieu, pas indépendamment du Fils de Dieu, mais fils de Dieu, enfant de Dieu, dans le Fils de Dieu, et le Saint-Esprit vient nous révéler cette vérité. Il vient dissiper, disais-je, l'illusion qui consiste à croire que nous sommes dans une existence distincte, voire opposée au Fils de Dieu. Bien entendu, souvent, par le péché, nous nous dissocions du Fils de Dieu, même nous tombons en état de péché mortel, nous sommes dans des situations qui sont bien, bien tristes, bien malheureuses. Mais en réalité, tant que nous existons, tant que nous sommes en état de voie, eh bien, rien, alors évidemment, il y a un aspect qui nous dit que rien n'est jamais certain. Nous pouvons toujours chuter si nous sommes en état de voie et dans l'état de justice. Néanmoins, si nous avons chuté, comme cela peut arriver malheureusement, eh bien, nous savons aussi que rien n'est perdu. Puisque ce Saint-Esprit que nous avons contristé et qui nous a quittés pour un certain temps, possède en nous une amorce, et pas une petite amorce, qui n'est autre que le caractère baptismal imprimé de façon indélébile dans nos âmes. L'Écriture nous dit « ne contristez pas le Saint-Esprit ». Nous le contristons souvent, malheureusement, mais il se trouve que le Saint-Esprit possède quelque chose en nous qui appartient au Christ et qui est comme l'assurance, le sceau que nous avons, que nous sommes, que nous appartenons au Christ et qu'il serait bien difficile au diable de nous dissocier de lui au point de nous faire de nous damner. Évidemment, si nous mourons dans un état de dissociation avec le corps mystique du Christ, c'est-à-dire si nous sommes excommuniés, si nous sommes en état de péché mortel aussi, malheureusement, cette marque qui est en nous ne servira qu'à nous faire châtier plus sévèrement. Ceux qui n'auront pas cette marque seront châtiés très sévèrement, mais moins sévèrement que ceux qui l'auront. Mais il ne faut pas voir les choses uniquement sous cet angle-là. Cette marque est aussi, en quelque sorte, un caractère, tant que nous vivons, un caractère de l'insubmersibilité, si j'ose dire, du chrétien. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive au chrétien, le chrétien ne peut pas se dire « bon, à partir d'aujourd'hui, je suis damné ». Parce qu'il est impossible Même s'il a passé des années et des années dans le péché, il est impossible que le chrétien perde la marque du caractère sacramentel qui est imprimé dans son âme par le baptême. D'où l'utilité fondamentale du baptême, je vous le fais remarquer bien entendu en passant. Il est impossible que nous échappions à la main de celui qui nous a rachetés. Si nous devons être sauvés, eh bien, il nous rattrapera. Il ne nous rattrapera pas sans nous frapper, nous battre, nous traîner, ça c'est vrai. Et puis nous faire nous écorcher aux épines, mais après tout, les épines, c'est nous qui nous sommes fourrés dedans. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça ne veut pas dire que tout ceci se fera sans souffrance, cela veut dire que ceux que le Christ a reçus de son Père, aucun d'entre eux, il ne les perdra. Nous sommes, mes très chers frères, par l'œuvre du Saint-Esprit, nous sommes vivifiés de telle sorte que nous ne puissions pas dire, si nous sommes en état de grâce, si nous ne puissions pas dire que nous sommes libres de vivre à notre guise, c'est-à-dire selon notre chair. Pour nous vivifier et pour nous fortifier, pour nous faire croître à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous donne 7 dons. Ce sont ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Je les énumère en partant du plus grand jusqu'au plus petit. Le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de conseil, le don de force, le don de science, le don de piété, le don de crainte de Dieu. Il faut commencer pour les acquérir par le dernier. Don de crainte de Dieu, don de piété, don de science, etc. Ce n'est pas le moment, aujourd'hui, nous avons d'autres choses à dire, ce n'est pas le moment d'examiner chacun de ces dons en particulier. D'ailleurs, toute l'octave de toute la semaine qui suit la fête de la Pentecôte est consacrée chaque jour à un de ces dons. Aujourd'hui, c'est le don de sagesse. Néanmoins, il faut commencer par le don de crainte de Dieu. La crainte de Dieu, qu'est-ce que c'est ? En quoi consiste-t-elle ? C'est la haine du mal, dit Salomon. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est la haine du monde, c'est la crainte de déplaire à Dieu. On n'a pas vraiment la crainte de Dieu tant qu'on se complaît dans le péché. Je ne dis pas que la crainte de Dieu ne peut pas perdurer, même avec l'amour de Dieu, dans un état où le péché domine. Mais c'est une crainte qui est plutôt servile, c'est une charité qui est très très faible, qui est extrêmement faible, qui est rudimentaire, c'est une petite parcelle de charité. Alors, la charité, comme dit notre père saint Augustin, qu'elle soit une parcelle ou qu'elle soit totale, c'est toujours de la charité. La seule chose, il faut une charité forte qui puisse dominer et surmonter la concupiscence. Néanmoins, pour diverses raisons, parce que le bon Dieu est bien bon, il se trouve que, alors même que nous sommes dans des états épouvantables pour les chrétiens, il se trouve que nous ne sommes pas dépourvus de quelque chose qui ressemble à une amorce. Néanmoins, le premier don du Saint-Esprit, c'est le don de crainte de Dieu. Vous voyez, mes très chers frères, il y a toute une littérature qui a été apparue et qui a été développée au XXe siècle essentiellement, un petit peu au XIXe, mais surtout au XXe siècle, avec l'essor des courants dont Maritain, par exemple, était le mentor. Il y a eu toute une littérature théologique de vulgarisation au XXe siècle qui a, en quelque sorte, contribué à faire croire aux chrétiens que tous les dons du Saint-Esprit, eh bien, ne sont que, en quelque sorte, des enjolivements de la nature, c'est-à-dire, comprenez, pas la nature déchue, mais la nature telle que le chrétien l'expérimente telle qu'il a, c'est-à-dire que sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété, crainte de Dieu peut-être un peu moins, mais ce sont des choses qui, sous un certain rapport, s'explique aussi, grâce aux catégories d'Aristote, s'explique aussi d'une manière ou d'une autre comme étant des vivifications, fortifications de cette chose merveilleuse, effectivement, qu'est l'être humain en soi. Bref, il y a eu un certain nombre de postulats, d'enseignements, de choses qui ont été dites dans ces livres de vulgarisation, qui ne sont pas entièrement fausses en elles-mêmes, mais qui laissent entendre que finalement, le chrétien est un homme particulièrement, grâce à la religion, particulièrement évolué, particulièrement illuminé, éclairé, enfin, qui a des lumières, parce que, bon, l'Occident, etc. Et les dons du Saint-Esprit sont là, en quelque sorte, pour lui donner, contrairement à d'autres qui sont asservis aux francs-maçons, asservis à toutes sortes de fausses doctrines, effectivement, qui sont des fausses doctrines, mais pour lui donner à lui, catholique, une meilleure capacité de mieux travailler, en particulier à la conquête de la modernité. Alors tout ceci est un peu vieilli, heureusement dans un certain sens, tout ceci est un peu vieilli. Néanmoins, vous voyez, mes très chers frères, si je fais mention de ces choses-là, ce n'est pas pour assombrir l'horizon de cette fête merveilleuse qu'est la Pentecôte, mais c'est pour dire, si vous voulez trouver de bons livres sur le Saint-Esprit, ne lisez rien de ce qui s'est produit ou de ce qui s'est publié au XXe siècle, ne lisez rien de ce qui s'est publié au XIXe. Lisez plutôt les auteurs à partir du XVIIIe et avant. Je ne vous dis pas de lire les Pères de l'Église parce que c'est peut-être un peu au-delà de la portée, mais lisez le Père Avrillon, lisez les bons auteurs qui ont vécu à une époque qui n'était pas traversée par des interférences, les interférences de la militance pro-modernité. Lisez, imprégnez-vous de cette doctrine chrétienne qui nous dit que, et c'est une chose terrible, mais il faut la dire, mais il ne faut pas se décourager, car nous verrons qu'il ne faut, en aucun cas on ne peut se décourager, mais qui nous disent que les dons du Saint-Esprit ne sont pas donnés par le Saint-Esprit aux chrétiens, à moins qu'ils vivent véritablement dans l'épanouissement du premier, qui est le don de crainte de Dieu. C'est-à-dire que ces dons, qui aujourd'hui sont essentiellement conçus comme des moteurs de l'action dans le temps, ces dons servent à passer de la terre au ciel par la réalisation parfaite de quoi donc? Encore une fois, du devoir d'État, qui est le seul moyen, chacun pour soi, qui est le seul moyen de parvenir à la sanctification, au salut. De mettre en œuvre la sanctification, de parvenir au salut. Ce ne sont pas des moyens qui nous sont donnés pour l'innovation, mais des moyens pour réaliser la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, dit saint Paul, c'est notre sanctification, c'est que nous nous abstenions des souillures du monde. Si nous sommes souillés par le monde, si nous nous complaisons dans les souillures du monde, c'est-à-dire si nous péchons et que nous aimons le péché, hélas, bien souvent nous péchons et nous détestons le péché. Et c'est une phase d'enfance spirituelle où il faut la dépasser, mais elle dure autant que ça dure et il faut combattre. Ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas que nous combattions, que nous tombions et que nous recommencions. Le problème, c'est quand finalement, nous nous faisons une raison et que nous disons, finalement, le péché, tel péché n'est pas tellement mauvais, tel péché peut, gros ou subtil, grossier ou subtil, peut, finalement, fait partie, doit, peut faire partie de la normalité de la vie chrétienne. Ça, c'est une chose fausse. Néanmoins, voyez-vous, mes très chers frères, les dons de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété ne sont donnés qu'à ceux qui vivent habituellement dans un état de justice. Et c'est là où effectivement il y a toute une littérature sur le Saint-Esprit au XXe siècle qui est finalement, qui contribue à tromper les chrétiens. On vit à peu près n'importe comment, on se vautre dans le péché et on a recours au sacrement de pénitence, heureusement que nous l'avons, mais on a recours au sacrement de pénitence comme si ce n'était rien que de péché. Et ensuite, on étudie les dons du Saint-Esprit pour être plus fort que les francs-maçons, que les ceci et cela. C'est une erreur, c'est une gravissime erreur, mes très chers frères. Nul n'a le don de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété, s'il ne met à profit le don de crainte de Dieu qui le fait se détourner habituellement du mal et qui le fait combattre le mal. Vous allez dire, mais alors finalement, il n'y a quasiment aucun chrétien qui n'est vivifié par le Saint-Esprit. Mes très chers frères, étonnez-vous de la situation du monde actuel. Nous passons à notre deuxième point. Comment le Saint-Esprit procède-t-il pour notre sanctification? Écoutez ce que nous fait dire l'oraison. Deus qui odierna die, ô Dieu qui en ce jour, arrêtons-nous là 2 minutes, ô Dieu qui en ce jour. Je vous ai dit déjà que on doit comprendre l'oraison en fonction de la manière dont on invoque Dieu. Ô Dieu tout-puissant et éternel, Dieu très grand, Dieu, etc. Ô Dieu, c'est Dieu tout court. Donc c'est en quelque sorte l'invocation maximale de Dieu. On invoque Dieu d'une façon plus impressionnante lorsqu'on dit ô Dieu que lorsqu'on dit Dieu Tout-Puissant et Éternel. Parce que plus on parle, en quelque sorte, plus on rétrécit ce que l'on veut dire. Lorsque l'on dit ô Dieu, Deus, Deus qui odia nadie, Dieu qui en ce jour, qui aujourd'hui, nous appréhendons Dieu, nous abordons Dieu ici comme ses enfants, mais nous abordons Dieu sous le rapport d'une œuvre qui lui est naturelle. Attention, je ne dis pas une œuvre naturelle au sens de créaturelle. Une œuvre qui est naturelle à Dieu, c'est-à-dire une œuvre qui est divine, qu'est-ce que c'est? C'est notre sanctification. Une œuvre qui ne lui est pas naturelle, en quelque sorte, enfin, on se comprend, si j'ose dire, c'est la création. Lorsque Dieu crée, il fait quelque chose qui est étranger à lui, qui est extérieur à lui, sinon étranger, mais extérieur à lui. Il crée, c'est-à-dire il pose face à lui un non-Dieu, un non-Dieu, c'est-à-dire la création est tout sauf Dieu. Lorsque Dieu sanctifie, il ne crée pas, il fait quelque chose de plus grand. Lorsque Dieu sanctifie, si l'on peut dire, si l'expression existait en théologie, il ne faut pas en abuser, mais il décrète. C'est-à-dire que sanctifier, qu'est-ce que ça signifie? À strictement parler, ça veut dire mettre à part. C'est-à-dire prendre de la création, c'est-à-dire de l'origine de la création, de dedans la création, et le mettre en Dieu. Ô Dieu qui en ce jour avait enseigné les cœurs des fidèles. Ô Dieu, nous tournons vers ce Dieu pour qui la sanctification de ses créatures est une œuvre naturelle à lui, c'est-à-dire une œuvre divine pour nous. C'est une œuvre naturelle que la sanctification, naturelle pour Dieu, vis-à-vis du corps mystique de son Fils qui est Dieu. Deus, c'est Dieu relativement à lui-même. Et le Saint-Esprit, au sein de la très sainte Trinité, un seul Dieu, est l'amour mutuel du Père et du Fils. Lorsque Dieu fait une œuvre divine, proprement divine, de réintégration vis-à-vis d'une créature, c'est-à-dire toutes les créatures qui sont dans le corps mystique de son Fils, il opère par le Saint-Esprit. C'est Dieu en tant que Saint-Esprit, Dieu, la personne du Saint-Esprit, distincte du Père et du Fils, bien entendu, le Père et le Fils agissant avec le Saint-Esprit, mais une œuvre appropriée au Saint-Esprit, pour parler comme les théologiens, appropriée au Saint-Esprit. L'amour mutuel du Père et du Fils, lorsque le Père nous aime, se manifeste, se concrétise, se réalise par le don du Saint-Esprit, qui nous est envoyé au nom du Fils. C'est pour cela que le Seigneur disait, il vous enverra le Père, le Saint-Esprit, que le Père vous enverra en mon nom. Comment Dieu opère-t-il notre sanctification, puisque nous savons maintenant que c'est le Saint-Esprit qui l'opère? Dieu opère notre sanctification, mes très chers frères, c'est une chose absolument importante à comprendre, sinon non seulement on ne comprendra rien, mais on ne sera jamais sanctifié. Dieu opère notre sanctification selon un ordre très rigoureux, hors duquel toute sanctification est impossible. Et je prendrai ici pour illustrer ce que nous dit notre propos, un exemple. Tout le monde qui sait faire du feu, un feu de camp, ou un feu dans la cheminée, ou un feu, même brûler les feuilles en général, la plupart du temps, les gens n'y arrivent pas parce qu'ils ne savent pas comment faire un feu. Il y a des gens qui savent faire du feu, et ces gens-là me comprendront, les autres apprendront comment faire du feu. Comment faire du feu? Tout le monde qui veut faire du feu durablement, par exemple pour faire la cuisine dans les bois, comment fait-on du feu? Est-ce qu'on coupe un arbre et puis on verse de l'essence dessus? Non, évidemment, ça c'est un barbare, il y a de quoi mettre le feu dans la forêt, on ne va pas on va cuire son dîner là-dessus. On prend un peu de mousse, un peu de lichen, un peu de papier, quelque chose de très léger, quelque chose de très inflammable, facilement inflammable. On le met dans un endroit précis. On met sur ces matières facilement inflammables, on met des brindilles. Un certain nombre de brindilles. Sur ce tas de brindilles, on met des brindilles un peu plus grosses. Sur ces brindilles un peu plus grosses, on met des brindilles encore un peu plus grosses. Et ainsi de suite, de telle sorte que tout en haut du bûcher, le bûcher étant, disons, ce feu préparé, on met les grosses bûches qui, sans cela, ne prendraient que très difficilement feu, voire jamais. Essayer d'allumer une bûche avec une allumette, c'est impossible. Essayer d'allumer une bûche grâce à la disposition que je viens de décrire du bûcher, c'est la chose la plus facile du monde, et si l'on peut dire, c'est la seule façon d'allumer une bûche. Le Saint-Esprit est le feu. La bûche, si j'ose dire, c'est le gros œuvre de notre sanctification, c'est-à-dire notre transformation, la transformation même de notre personnalité dans la divinité du Fils éternel de Dieu. Et tout le reste, c'est les étapes pour arriver à ce travail précis et extrêmement qui nécessite une très grande chaleur. Pour faire brûler une bûche, il faut déjà du feu et un bon feu, de telle sorte que les spécialistes vous diront que la bûche perde son humidité, c'est pour ça qu'il y a une fumée blanche au début, qu'ensuite elle soit chauffée et que ce bois sec et chaud prenne feu. Il faut du feu pour faire du feu. Le Saint-Esprit, c'est le feu. Nous sommes les grosses bûches et l'ordonnation de la vie, en fonction du devoir d'État, c'est toujours la même chose, mais sous un autre rapport, l'ordonnation de la vie sous le rapport du devoir d'État, c'est le papier, les lichens, les brindilles, les petites bûches, les grosses bûches, les bûches de moyenne taille, etc. Si vous faites cela, alors n'importe qui sait faire du feu, sait que du moment où vous mettez l'allumette, une toute petite allumette, au milieu de la première couche, il y a tout qui prend. Et en quelques instants, vous aurez un feu durable pour faire cuire votre repas. Sans cela, il est impossible d'allumer et d'avoir le feu. Donc pourquoi disons-nous cela? C'est parce que le Saint-Esprit, ce n'est qu'un secret pour personne, puisque c'est une des choses les plus communes que l'on puisse dire sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aux chrétiens ce que le feu dans l'Ancien Testament était à l'Holocauste. Qu'est-ce que l'Holocauste? L'Holocauste, c'est ce sacrifice qui consistait à brûler entièrement, d'où le nom en grec, Holocauste, brûler totalement, brûler entièrement la victime. Le Saint-Esprit est aux chrétiens ce que le feu est à l'Holocauste. Nous sommes des victimes de par notre baptême. Nous avons été immolés dans l'agneau immolé. Nous sommes membres du corps mystique du Christ. Mais attention, le corps mystique du Christ, ce n'est pas uniquement tel ou tel aspect du Christ qui nous plaît. C'est l'agneau immolé que Saint Jean a vu trônant sur le trône de Dieu dans l'Apocalypse. Le Saint-Esprit est aux chrétiens ce que le feu est à l'Holocauste. La sanctification, mes très chers frères, et si nous ne donnons pas cette définition à la sanctification, nous ne comprendrons jamais ce qu'est la sanctification et nous ne serons jamais sanctifiés. La sanctification, qu'est-ce que c'est? C'est, disons-le d'une façon crue, simple et précise, nette, c'est la destruction de la nature. Alors vous allez dire, oui, mais on dit le Dieu, la grâce ne détruit pas la nature, elle la perfectionne. Petit malin. Qu'est-ce que perfectionner la nature? C'est lui faire, parlons scolastiquement, puisque c'est une formule scolastique. Qu'est-ce que la perfection de la nature? Qu'est-ce que la perfection d'une chose? C'est quand cette chose arrive à être totalement, à réaliser le but pour lequel elle existe. La perfection d'un marteau, c'est d'enfoncer un clou. Si vous essayez d'enfoncer un clou avec une chaussure, eh bien vous allez abîmer votre chaussure et vous n'allez rien faire. Essayez, si le marteau est bien constitué, la tête est bien dure, le manche est solide, et bien la tête est bien enfoncée sur le manche, le clou va s'enfoncer très facilement. Vous allez dire, mais ça ne détruit pas. Non, c'est vrai parce que nous parlons d'un marteau. La perfection d'une brebis, d'un agneau, dans un champ, lorsqu'elle est élevée pour être mangée, sa perfection, elle l'atteint lorsque la maîtresse de maison dépose le plat sur la table, un dimanche de Pâques, et que tout le monde se régale, si vous me permettez l'expression, tout le monde se régale de l'agneau pascal, et que l'on trouve qu'il est bon. Alors vous voyez, c'est horrible, c'est cruel. À quoi sert un agneau qui vivrait en bonne santé, qui vivrait très vieux, qui mourrait dans les champs, qui serait dévoré par les petites bêtes qui sont là, et puis qui tomberait en poussière, il n'aurait pas atteint sa finalité. La perfection de l'agneau, c'est d'être mangé par l'homme au jour de la fête de Pâques. La perfection de la nature humaine, c'est d'être totalement identifié au Fils éternel de Dieu, totalement uni à Dieu dans le Christ. Vous allez dire, oui, mais il n'y a pas de destruction. Bien sûr, il n'y a pas, je ne dis pas que l'homme devient Dieu comme si Dieu pouvait être le résultat de quelque chose qui est devenu alors qu'il ne l'était pas. Bien entendu, je ne dis pas cela. Personne ne le dit d'ailleurs. L'homme totalement oublieux de lui-même, l'homme totalement dépris de lui-même, totalement incorporé au Christ au point de ne faire qu'un avec lui et d'être plongé au sein de la très sainte Trinité dans ce retour d'amour perpétuel et éternel du Fils vers le Père dans l'unité du Saint-Esprit. C'est cela, la perfection de l'homme, la destruction de la nature. Par destruction de la nature, nous n'entendons pas que l'homme deviendrait Dieu comme si l'homme était un petit bout détaché de Dieu, etc. C'est une absurdité. La perfection de la nature, c'est de ne plus être pour elle. Or, la nature telle que nous la connaissons, c'est l'égoïsme. C'est l'égocentrisme, comme on dit, ou plus d'une façon plus théologique, c'est la concupiscence, la triple concupiscence. La nature telle qu'elle est animée, mue, guidée par la triple concupiscence, cette nature doit être détruite par le processus de sanctification. Le bois, c'est une chose très belle dont on peut faire des meubles, etc. Mais si on veut faire de la cuisine, si on a de très belles bûches dans son bûcher, si on a de très belles brindilles, si on a de la mousse très sèche, et si on a des allumettes extrêmement efficaces, et que tout reste dans les tiroirs, dans les placards, dans les bûchers, dans les casiers, à quoi ça sert? La bûche n'atteindra jamais sa perfection. Vous allez dire, mais c'est une chose tellement merveilleuse, je ne vais pas la brûler. C'est une chose qui va être piquée par les vers, qui va péricliter, qui va tomber en poussière. La bûche qui tombe en poussière dans un bûcher, oubliée qu'elle est, n'atteindra jamais sa perfection. La perfection de sa bûche, c'est d'être détruite par le feu pour donner par sa chaleur, pour être par sa chaleur utile à l'homme qui l'utilise. La perfection de la nature humaine, c'est d'être tellement déprise d'elle-même qu'elle puisse être unie par la charité à Dieu dans le Christ. La sanctification est donc la destruction de la nature, au sens vulgaire et commun du terme, au sens où nous l'entendons, la nature, c'est quelque chose qui m'appartient, qui est fait pour moi. La sanctification a pour but la transformation de la nature en Dieu. Certains théologiens l'appellent la divinisation. Bon, c'est un terme malheureusement à la mode dans les milieux spiritualistes qui n'ont rien à voir avec le christianisme. C'est un peu dommage parce que c'est un terme qui appartient à la théologie chrétienne. Alors il ne faut pas en abuser, mais il ne faut pas en avoir peur non plus. La transformation en Dieu, c'est la fin de la sanctification, c'est la finalité de la sanctification, mais pour qu'elle se réalise, il faut que le Saint-Esprit soit aux chrétiens ce que le feu est à l'Holocauste, et que l'Holocauste soit placé, c'est-à-dire le sacrifice, la victime soit placée sur un bûcher bien constitué, normalement constitué, hors de l'ordre de la technique pour bien faire le feu, l'Holocauste ne peut pas brûler, Dieu ne peut pas être honoré par l'Holocauste. Mes très chers frères, pour tout cela, il faut commencer par la crainte de Dieu. L'aspect le plus minimal de la crainte de Dieu, la crainte de lui déplaire. Je ne dis pas que l'aspect encore plus minimal, ce n'est pas la crainte des châtiments, mais c'est la crainte servile. Elle est très bonne, comme une amorce d'amorce. Mais la crainte, au sens positif du terme, au sens qui commence à être filial, c'est la crainte de déplaire à Dieu. La crainte de faire quelque chose qui entrave, en tout cas sous un certain rapport, la volonté de Dieu. La Pentecôte est la fête de la plénitude. Lorsque les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit, plus rien ne pouvait les remplir. C'est de telle sorte qu'une fois qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, en tout cas c'était vrai pour les apôtres, ils ont été tellement pleins du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, qu'ils ont été portés l'Évangile jusqu'aux confins de la terre et qu'ils sont morts martyrs. Si ce n'est pas un exemple des plus parfaits de la destruction de la nature, de la transformation en Dieu, je demande où on en trouvera un autre. Mes très chers frères, c'est la fête, la Pentecôte de la plénitude, mais il faut commencer par se déprendre de soi-même. Et la dépossession de soi-même, mes très chers frères, alors vous allez dire c'est quelque chose de terrible, sous un certain rapport, oui c'est vrai, ne nous le cachons pas, mais sous un autre rapport, c'est la chose la plus belle qui puisse exister. Pourquoi? Parce que notre Seigneur nous le dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Non, je vous la donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La dépossession de soi-même, c'est la paix. La paix des passions. C'est-à-dire lorsque les brindilles, les bûches que nous sommes sont dans un état où elles peuvent être ravagées par le feu et consumées par le feu et atteindre leur finalité. Comment le monde donne-t-il sa paix? en la faisant consister dans l'assouvissement des désirs sensibles. Donc, sous un certain rapport, lorsqu'on est sur le point d'assouvir un désir sensible, on se dit, bon, dans un instant, je vais avoir la paix. Une fois qu'on l'a atteint, le plaisir passe très vite, la satisfaction passe très vite, et il se trouve que l'agitation recommence. C'est ainsi que le monde donne la paix. En fait, il ne donne jamais la paix. Il y a d'autres façons encore plus subtiles par lesquelles le monde donne la paix, mais elles ne nous intéressent pas aujourd'hui. La paix du Christ, mes très chers frères, c'est la tranquillité de l'ordre holocaustique, si j'ose dire. La tranquillité de l'ordre holocaustique. La paix et la tranquillité de l'ordre, dit notre Père Saint Augustin, la paix du Christ, c'est la tranquillité de l'ordre holocaustique. Si vous êtes un hébreu dans l'Ancien Testament et que vous voulez offrir à Dieu votre victime, vous venez d'égorger un taureau, que sais-je, un agneau, vous voulez l'offrir à Dieu. Comment vous allez faire? Vous allez au lance-flammes? Bien sûr que non. Vous allez d'abord veiller à ce que, enfin les prêtres, veillent à ce que le bûcher soit bien fait. Et le bûcher doit être fait selon les règles que nous avons énoncées un peu plus tôt dans ce sermon. S'il n'est pas fait selon les règles, on n'y pense pas, mais il faut y penser. Vous avez beau essayer d'offrir à Dieu un holocauste, et l'holocauste ne sera jamais réalisé. Vous voulez vous sanctifier, mes très chers frères, et c'est très bien. Votre désir est de vivre du Saint-Esprit, de la foi, et de vivre sous la motion du Saint-Esprit. Et c'est un désir on ne peut pas trouver un meilleur désir. Mais vous donnez-vous les moyens. Vous en donnez-vous les moyens, mes très chers frères. Vous allez dire, ben, je fais des efforts, je crois, le don de crainte, et puis un petit peu le don de force, etc. On n'est pas là. C'est pas un bricolage. Êtes-vous dans l'ordre? Votre vie est-elle un bûcher régulièrement constitué, sur le sommet duquel se trouvent les grosses bûches et sur lesquelles est déposée la victime? Êtes-vous fidèle dans votre devoir d'État? Êtes-vous un membre du corps mystique du Christ? Alors vous allez dire, bon, ben, c'est la moindre des choses, hein, réfléchissez-y bien. Réfléchissez-y bien. Ce n'est pas pour rien que dans la cérémonie de réconciliation, à la fin, vers la fin, l'évêque invoque les sept dons du Saint-Esprit et demande à Dieu qu'il soit donné, de telle sorte que celui qui aurait reçu la confirmation en dehors de l'Église puisse enfin jouir de la confirmation. On ne peut se sanctifier que dans la mesure où l'on est campé dans son devoir d'État. On est campé dans son devoir d'État de façon à être sanctifié, par toutes les œuvres méritoires que nous y ferons, que dans la mesure où nous sommes en position de faire des œuvres méritoires, c'est-à-dire où nous faisons réellement partie du corps mystique du Christ. Si nous faisons partie d'une façon imaginaire, idéaliste, fictive, du corps mystique du Christ, nous aurons beau faire des choses très belles, si tant est qu'elles soient vraiment belles, malheureusement, le feu ne sera pas au milieu du bûcher, le bûcher ne sera pas sous l'holocauste. Mais si nous avons tout cela, alors, mes très chers frères, le Saint-Esprit agit dans notre vie comme le feu dans l'Holocauste. Quel est le but de l'Holocauste? Rendre à Dieu, dans l'Ancien Testament, rendre à Dieu la gloire qui lui est due par la consommation totale du sacrifice qu'on lui donne. Quel est le but de la vie du chrétien? Rendre à Dieu la gloire qui lui est due par l'ordonnation entière de tout dans le chrétien, de tout dans la vie du chrétien, dans son existence, au sens très concentré, au sens très élargi, à la gloire de Dieu. C'est pas l'incendiaire, n'est pas un sacrificateur qui allume le bûcher de l'Holocauste. Attention, mais nous ferons la grâce de ne pas parler de ces choses-là aujourd'hui, une fois de plus. Venez, Saint-Esprit, remplissez les cœurs de vos fidèles et embrasez-les du feu de votre amour. Et tui amoris ineis iniem ascende. Il y a quelque chose d'assez terrifiant. Il ne faut pas s'imaginer que l'on va être dans un holocauste fait avec le bois du buisson ardent qui brûlait sans se consumer. Ça, c'est un miracle unique que Dieu a fait pour attirer l'attention de Moïse, et puis pour symboliser aussi la façon dont la Sainte Vierge mettrait au monde le Fils éternel de Dieu. Mais tout autre holocauste est littéralement consumé. Sinon, on se moque de Dieu. Si on fait un holocauste avec du faux feu, avec des feux de Magal, comme on dit, des feux qui ne brûlent pas, à quoi ça sert? C'est un holocauste pour rire. Et si on fait des choses pour rire dans l'œuvre de la sanctification, dans l'œuvre du culte divin, on se moque de Dieu en réalité. Nous ne voulons pas nous moquer de Dieu. Donc il se trouve que nous devons être des bûchers régulièrement constitués et nous devons sans crainte dire à Dieu, embrasez-nous du feu de votre amour. Le Saint-Esprit, mes très chers frères, n'est donné que pour que le Christ émerge en nous. Il ne nous est pas donné, nous l'avons dit, pour être utilisé à des fins temporelles. Bien entendu, les effets de l'œuvre du Saint-Esprit rejaillissent sur le temporel, mais d'une façon accidentelle. C'est-à-dire qu'un père, une mère, qui vivraient véritablement embrasés par l'amour du Saint-Esprit, ne sauraient manquer de voir dans leur famille, et plus loin, les effets de cet embrasement, bien entendu. Tout feu produit la consommation de ce qu'il dévore et le réchauffement de ce qui est aux alentours. Ça, c'est évident. Donc, je ne dis pas qu'il s'agit ici d'une doctrine individuelle, c'est tout à fait absurde. C'est plutôt contagieux, en réalité, le feu. Mais il se trouve que le Saint-Esprit n'est donné que pour que le Christ émerge en nous. Dans la mesure où il émerge en nous, nous deviendrons toujours plus fidèles à notre devoir d'État, nous serons utiles à notre prochain, autant que Dieu le permettra, et nous nous sanctifierons, nous et ceux qui nous sont donnés. C'est-à-dire les pères sanctifient, les épouses sanctifient leurs épouses, les pères, les mères se sanctifient mutuellement, l'époux, l'épouse, etc., et les enfants, bien entendu. Et les enfants qui se sanctifient, sanctifient aussi leurs parents, dans la mesure où un enfant qui se sanctifie, un enfant qui est embrasé par l'amour de Dieu, eh bien, cet embrasement ne peut que rejaillir sur ses parents, bien entendu. Si quelqu'un m'aime, alors vous allez dire, comment est-ce que ça se manifeste, tout ceci? Comment ça se met en pratique? C'est très simple. L'Église nous a tout prévu. Il suffit de lire l'Évangile. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Si quelqu'un m'aime, c'est-à-dire si quelqu'un fait véritablement partie de mon corps mystique, dans le sens où il ne songe pas simplement à s'en séparer, mais qu'il veut véritablement aimer Dieu. Comment cela va-t-il se manifester? Par l'obéissance au commandement. Cette obéissance au commandement ne peut se faire que dans le cadre, je l'ai dit, je le répète, de l'ordonnation du devoir d'État. Et mon Père l'aimera, il y a quelque chose de magnifique, quelque chose d'extrêmement doux à entendre dans cette affirmation de notre Seigneur, mon Père l'aimera. Mais nous avons dit que lorsque nous nous adressons à Dieu en disant « ô Dieu qui aujourd'hui », etc., être aimé de Dieu, c'est être embrasé par le Saint-Esprit encore plus. C'est recevoir non seulement le don de crainte de Dieu, mais aussi tous les autres dons de piété, de science, de force, de conseil, d'intelligence et enfin de sagesse. Mon Père l'aimera. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui aiment le Christ, c'est-à-dire à ceux qui lui obéissent. Si nous disons, mon Dieu, je vous aime, et que nous ne lui obéissons pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire, mon Dieu, je vous aime, parce qu'il faut se forcer à le dire jusqu'à ce que ça devienne vrai. Mais il se trouve que nous ne l'aimons pas en réalité. Et que si nous sommes dans un processus qui nous mène à l'amour de Dieu, il faut y continuer. Mais si nous nous gargarisons d'être des gens qui ont tout le temps l'amour de Dieu à la bouche et qui ne lui obéissent jamais et qui sont campés dans cette désobéissance en réalité, alors mes très chers frères, nous savons que Dieu le Père ne peut pas nous aimer puisque nous n'aimons pas son Fils et que nous ne nous aimons pas, il ne peut pas nous donner son Saint-Esprit et que n'ayant pas le Saint-Esprit, tout ce que nous faisons est vain, futile, inutile, nocif, néfaste et nous mérite l'enfer, quand bien même ce seraient des œuvres qui ne sont pas mauvaises. Elle nous mérite l'enfer parce que nous osons faire quelque chose en dehors de Dieu. Or, sans moi, dit notre Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Autrement dit, mes très chers frères, et c'est une chose que nous devons dire lors de la fête de la Pentecôte, afin que tout le monde ne s'imagine pas que le Saint-Esprit est une sorte de cerise confite sur les beaux gâteaux qu'ils sont, nous devons le dire, mes très chers frères, autrement, le Saint-Esprit est inaccessible aux désobéissants. Si nous ne voulons pas obéir à Dieu, nous n'avons rien du Saint-Esprit, excepté ces quelques amorces, que nous avons de par le baptême, piètre consolation lorsqu'on est méchant. Alors, arrivons-en à notre troisième point et concluons. Dans l'oraison d'aujourd'hui, où nous nous adressons à Dieu, ô Dieu, à ce Dieu qui agit naturellement envers nous, c'est-à-dire qui nous sanctifie par son Esprit Saint, que nous disons, ô Dieu qui en ce jour avait enseigné les cœurs de vos fidèles en les illuminant des clartés du Saint-Esprit. Deus qui odena die corda fidelium sancti spiritus illustrationne docuisti, qui avez enseigné Le Père éternel nous enseigne, il enseigne notre cœur. Pourquoi notre cœur? Parce que le cœur est le centre de l'homme par où il connaît et il aime Dieu. Le cœur, des fois, se confond avec la mémoire et l'affectivité. C'est-à-dire que nous pouvons, si nous avons un peu potassé le catéchisme, nous pouvons connaître un certain nombre de choses sur Dieu. Et si nous avons un peu le goût de la liturgie, un peu le goût des choses un peu particulières, nous pouvons goûter la liturgie, nous pouvons apprécier le christianisme, nous pouvons apprécier les beaux textes de l'Écriture sainte, mais ce n'est pas le cœur. Le cœur, c'est le centre de l'être humain, c'est là où Dieu habite. Dieu enseigne nos cœurs par l'illustration, c'est-à-dire l'illumination du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que nous savons des choses sur Dieu que nous connaissons Dieu. Ce n'est pas parce que nous apprécions le catholicisme que nous aimons Dieu. Docuisti, vous avez enseigné. Dieu ne nous donne, mes très chers frères, Dieu ne nous donne le Saint-Esprit que pour qu'il nous instruise des paroles du Christ, c'est-à-dire des maximes de l'Évangile. C'est pour cela que notre Seigneur nous dit explicitement. Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit ne prend rien de lui-même, il n'a rien de lui-même. Il prend tout du Christ, qui a tout pris du Père, et il nous le donne, il nous l'enseigne, il nous l'applique, il nous en donne l'intelligence, la sagesse, l'intelligence, etc., au moment opportun, etc. Bien sûr, c'est une action de ce feu qui nous transforme progressivement dans le Christ. Mais pour que cela existe, pour que cela se produise, il nous faut être aimés par le Père, il nous faut donc obéir aux maximes du Christ. Alors vous allez dire, comment obéir aux maximes du Christ si nous n'avons pas le Saint-Esprit? Vous êtes baptisés, vous êtes donc tenus d'obéir aux maximes du Christ, aux maximes de l'Évangile. Vous avez suffisamment de Saint-Esprit, si l'on peut dire, vous avez suffisamment de Saint-Esprit pour obéir. Si vous refusez d'obéir, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Si vous obéissez, et que c'est une toute petite obéissance poussive, que c'est une amorce, il faut persévérer. Il ne faut pas se désespérer. Mais si, avec ce que nous avons reçu au baptême, nous ne faisons pas les efforts que nous devons faire, alors nous n'aurons rien. Et c'est une chose terrible que d'être privé du Saint-Esprit. Parce que ça veut dire que Dieu ne nous aime pas, ou en tout cas n'est pas dans une position pour nous aimer, parce que nous-mêmes, nous n'aimons pas son Fils, qui pourtant nous a tant aimé, qu'il s'est donné lui-même, et le Père nous a tant aimé, qu'il a donné son Fils afin qu'il meure pour nous en expiation de nos péchés. Da nobis, donnez-nous. Il n'y a que deux choses à dire sur cet ordre très pieux que nous disons à Dieu, donnons à Dieu, donnez-nous, donnez, da nobis, donnez-nous. Donnez-nous. Donnez-nous, c'est-à-dire, faites en sorte que nous puissions agir en nous donnant cette motion sans laquelle nous ne pouvons rien. Et cette motion, nous devons non seulement la désirer, non seulement l'attendre, mais la mettre en pratique. Parce que n'oublions pas que nous sommes baptisés et que nous sommes déjà mus, nous avons déjà reçu la grâce première, nous sommes déjà en mouvement. C'est pour cela que dans l'offertoire, nous dirons tout à l'heure dans un instant ceci à Dieu, affermissez ô Dieu ce que vous avez fait en nous. Qu'a-t-il fait? Il nous a fait octroyer le baptême. Il faut maintenant que par l'œuvre du Saint-Esprit, il l'affermisse en nous. Donnez-nous quoi donc? De recta sapere, de goûter sapere, les choses qui sont bonnes. Un auteur nous dit, je le répète souvent lors de la fête de la Pentecôte, parce que c'est une phrase très importante, ce qui manque le plus à l'homme, entendez le chrétien, ce qui manque le plus au chrétien, c'est moins la connaissance que l'amour du bien. La corruption de notre nature fait que nous avons une terrible spontanéité pour l'appropriation. C'est-à-dire que nous avons tendance à tout ramener à nous, alors que nous devons tout rapporter à Dieu. C'est ce que nous demandons lors de la cinquième dizaine des mystères joyeux, la recherche de Dieu en toute chose. Cette spontanéité de l'appropriation, c'est lorsqu'elle atteint son comble, c'est la damnation. Nous ne voulons pas être damnés, alors Nous demandons à Dieu qu'il nous fasse aimer, qu'il nous fasse goûter les choses droites. Recta, les choses droites. C'est-à-dire ce qui est conforme à l'ordre, encore une fois. Vous voyez, ce n'est pas une invention ou un dada de nous, de notre communauté. Les choses droites, c'est les choses qui sont faites selon l'ordre. Si nous voulons vraiment nous offrir en sacrifice à Dieu, ce dont je ne doute qu'aucun chrétien ne le veuille, ne désire d'une manière ou d'une autre, alors sachons à bien veiller, à veiller à ce que le bûcher sur lequel nous nous posons soit droit, soit constitué de recta, c'est-à-dire constitué de choses qui soient dans l'ordre, ce qui est conforme à l'ordre et qui est susceptible d'être, mes très chers frères, embrasé par le feu du Saint-Esprit. Encore une fois, si nous avons un bûcher dégouttant d'eau, dégoulinant d'eau, si nous avons un bûcher fait dans un ordre merveilleux, mais qui est composé uniquement de petites, de moyens, de moyennes et de grosses barres de fer, mais ce n'est pas un bûcher. Alors vous allez dire, c'est très beau, c'est une œuvre d'art. Peut-être, mais ce n'est pas un bûcher. Nous cherchons à brûler l'Holocauste, le consumer. Il ne s'agit pas de dire que c'est un ordre en soi, c'est un ordre. Oui, c'est sûr, c'est un ordre en soi. Ce n'est pas l'ordre que nous cherchons, ce n'est pas l'ordre dont nous avons besoin. Mes très chers frères, on ne peut brûler ainsi et vivre dans la concupiscence, par la concupiscence qui est l'amour de soi, l'amour des créatures, rapporté à nous-mêmes. Donnez-nous de goûter les choses droites, de goûter ce qui est droit. Donnez-nous d'avoir le goût et le sens de l'ordre, hors duquel on ne peut pas être consumé par le Saint-Esprit. Et, mais ce n'est pas tout, parce qu'on va dire, c'est terrifiant ce que nous demandons. Il y a une autre chose que nous demandons. Et de eius semper consolatione gaudere. Et d'être réjoui toujours de la consolation du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la consolation du Saint-Esprit? Mes très chers frères, c'est l'expérimentation de la paix du Christ qui est un sentiment étranger au monde. Le monde ne peut pas donner et ne vous a jamais donné la paix. La consolation du Saint-Esprit, c'est la jouissance de la paix du Christ. Alors vous allez dire, je ne peux pas, je ne sais pas ce que c'est exactement, Eh bien faites l'expérience, mes très chers frères. Demandez et goûtez les choses droites, mettez-vous dans l'ordre. Que le feu du Saint-Esprit, que l'amorce du feu du Saint-Esprit soit constituée par le don de crainte de Dieu, même dans son degré le plus minimal. Vous savez, comme dit Saint Jacques, pour mettre le feu à une grande forêt, il suffit d'une toute petite étincelle. Une toute petite étincelle de charité peut mettre le feu au bûcher dans la mesure où le bûcher est fait selon l'ordre. Si ainsi nous goûtons les choses qui sont droites, si nous goûtons l'ordre, si nous avons conscience de la nécessité et de l'utilité intrinsèque de l'ordre pour notre sanctification, alors toujours, Semper, quelle consolation, Semper, nous goûterons la consolation du Saint-Esprit. Je n'expliquerai pas plus en avant ce que signifie la consolation du Saint-Esprit. Vous verrez bien, ceux qui savent ce que c'est, savent que ça peut être très difficilement décrit par des mots, et ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, eh bien, l'expérimenteront rapidement dans la mesure où ils goûteront les choses droites. Le bois doit être bien sec, mes très chers frères, si nous voulons être consolés. Et c'est pour cela qu'il est appelé le Saint-Esprit le Pater Pauperum dans le deuxième verset de la séquence. Veni Pater Pauperum. Venez, Père des pauvres. C'est la pauvreté d'esprit. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. C'est la pureté du cœur. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Mes très chers frères, en cette fête de la Pentecôte, lorsque nous voyons la force même de Dieu, qui est la troisième personne de la très sainte Trinité, Dieu nous communiquant sa force par le Saint-Esprit, eh bien, lorsque nous voyons cette plénitude qu'il donne aux apôtres, nous comprenons que nous devons faire de grands efforts, que nous sommes promis à de grands travaux, à de grandes mortifications pour nous arracher à la complaisance de soi-même. Mais n'oublions pas, mes très chers frères, ce quatrième verset de cette séquence, In labore requies, ô Saint-Esprit, vous êtes le repos dans nos labeurs, le calme dans nos échauffements, la consolation dans nos larmes. Oui, nous pleurerons, mes très chers frères, parce que le moi ne veut pas mourir. Oui, nous pleurerons, nous nous échaufferons à la bataille, parce que le vieil homme nous fait la guerre. Oui, mes très chers frères, nous avons de très grands travaux extrêmement pénibles à faire. À côté d'eux, les travaux d'Hercule ne sont rien. Mais le Saint-Esprit est là. Et dans la mesure où nous souffrerons tous ces travaux, nous jouirons en même temps de la consolation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comme consolation, mes très chers frères, est inconcevable pour celui qui s'aime soi-même. Mais en revanche, très rapidement, il est goûté, il est expérimenté par ceux qui goûtent l'ordre. Alors, mes très chers frères, donnez-nous, prions, prions, prions que Dieu nous donne par le Saint-Esprit dont il a illuminé nos cœurs aujourd'hui, qu'il nous donne de goûter ce qui est droit et de jouir sans cesse de sa consolation. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne nous exauce pas. Soyons prêts à faire tous les efforts et sachons que la force même de nos efforts sera le Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Merci.